Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler d'un thème que Paul a déjà un peu abordé dans son introduction à la scène, mais je vais l'aborder d'une façon un petit peu différente. Et on va continuer avec Paul a utilisé une analogie avec le corps. Et je vais continuer pour introduire ce moment de réflexion qu'on va avoir ensemble avec une analogie qu'on tire de la physique. Alors, vous savez peut-être, mais moi j'ai une formation de physicien. Et le deuxième principe de la thermodynamique, donc s'énonce comme suit, l'entropie dans un système fermé ne peut que croître. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça. C'est un des principes fondamentaux en fait de la physique qui détermine le fait que par exemple le temps s'écoule toujours dans la même direction. Ça veut dire qu'on peut pas il y a des processus, des mécanismes qui ne sont pas réversibles, qui peuvent pas revenir en arrière. Et quand on dit que l'entropie dans un système ne peut que croître, ça veut dire que alors c'est une notion qui est physique, mais c'est quasiment aussi philosophique, parce que l'entropie on la caractérise aussi par le désordre. Et donc dans un système fermé, n'importe lequel, le désordre ne peut que croître. Fermé, c'est ça qui est important. Un système fermé, donc isolé. Il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur, autant que je peux. Donc un ah oui, mais moi je suis pas enseignant, donc je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc le désordre ne peut que augmenter dans un système qui est isolé du reste. La vie est un formidable moyen pour créer de l'ordre dans l'autre sens. D'accord. Cette vie, elle a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes analogies que ce que Paul donne. Donc, j'introduis en parlant de ça, parce que cette idée physique que dans un système sur lequel on n'intervient pas, les choses se dégradent, les choses se cassent, les choses tendent vers une perte de structure. Si on laisse faire les choses naturellement, et c'est une loi universelle, naturellement, les choses vont vers une dégradation et une perte d'ordre, et au bout du compte, une perte de vie. Notre corps, par exemple, passe son temps à se réparer. Alors là, c'est pas vraiment mon domaine de compétence, pour le coup, mais nos cellules passent leur temps à se réparer. Il y a plein de mécanismes qui font que nos cellules sont agressées en permanence par plein de choses, des produits chimiques, des rayonnements, des virus, des bactéries, plein de choses agressent notre corps, et notre corps passe son temps à se réparer. Les chromosomes dans notre corps, il y a des petits mécanismes qui permettent de réparer les morceaux qui sont cassés. Et quand notre corps arrête de se réparer, eh bien, notre corps meurt, tout simplement. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre vie, et en tout cas dans ma vie spirituelle. Je me rends compte que il y a des cassures, il y a des choses qui se cassent. Dans mes relations avec les autres, il y a des distances qui se forment, des blessures, des brèches qui s'ouvrent. Et si j'ai pensé à ce message, c'est parce que un jour je priais pour mon mariage. Je priais, je demandais au Seigneur de réparer les brèches qui se forment. Parce que avec Sandrine, on n'est pas un couple idéal, loin de là. Et parfois, par moment, eh bien, il y a des brèches qui se forment, des cassures, des distances, des blessures qui demandent à être réparées. Et je priais le Seigneur, je priais pour que ces brèches et ces cassures puissent être réparées. Et je me suis dit que ça Ça valait le coup d'essayer de réfléchir un peu à ce que la parole nous disait sur, sur ces brèches. Et j'ai cherché. Donc j'ai cherché dans la parole, quand, quand la parole nous parle des brèches, et comment, comment est-ce qu'elle nous en parle. On va lire trois passages dans l'Ancien Testament. Je ferai des allusions aussi au Nouveau. On va commencer avec un passage dans le psaume 106. Dans le psaume 106, et je vais lire au verset, entre le verset 19 et le verset 23. Donc dans ce psaume, le psalmiste nous parle d'un passage au temps de Moïse et de l'Exode. Les Israélites firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et Dieu parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. La première façon dont la Bible parle des brèches, c'est de se tenir à la brèche. Ce texte nous dit que Moïse s'est tenu à la brèche devant Dieu pour le peuple. Cette brèche, on voit bien comment est-ce qu'elle a été faite. On connaît ce passage où les Israélites se détournent de Dieu et cherchent un Dieu qui soit plus facile d'accès. Et ils se font un veau d'or et ils font une brèche. Ils font une brèche dans leur relation à Dieu. Et par cette brèche, Dieu veut les détruire. D'habitude, une brèche, ça fait souvent référence à un rempart. Il y a plein d'autres endroits où, par exemple dans Néhémie ou dans Job, il est parlé de brèches qui sont réparées, des brèches de la muraille de Jérusalem, qui sont réparées, qui sont un symbole de restauration. Ces brèches dans le rempart, c'était des brèches par lesquelles les soldats ennemis pouvaient rentrer dans la ville et la détruire. Et une ville dont les murailles étaient ébréchées était une ville sans défense, une ville ouverte au pillage et à la destruction. Mais dans ce passage, la brèche ouverte par le peuple, eh bien, celui qui se tient de l'autre côté, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu là qui joue le rôle de l'ennemi, qui va détruire le peuple. Et Moïse. Moïse se tient à la brèche. Moïse va intercéder pour le peuple. Il va vous rappeler ce passage. Il va se mettre, Dieu lui dit, je vais à partir de toi, je vais faire un nouveau peuple. Et Moïse dit non. Je me tiens devant toi et je t'implore pour mon peuple. Je veux pas que mon destin soit différent du sien. Moïse était prêt à mourir, à donner sa vie, à donner jusqu'à son salut pour ce peuple, qui pourtant, on sait combien il était dur et ingrat. Moïse s'est tenu à la brèche et a intercédé. En ça, il est un type de Christ qui, lui, aussi intercède pour nous, intercède depuis la croix, intercède pour nous et éloigne de nous la colère de Dieu. Et Moïse est un exemple pour nous, de la même façon, de celui qui est prêt à donner sa vie pour ses frères, qui est prêt à intercéder pour eux, pas pour son propre péché. Là, Moïse ne la brèche qui a été créée, c'est pas son péché à lui, c'est le péché des autres, et Moïse est prêt à se tenir devant et à porter les conséquences de ce péché qui n'est pas le sien. Se tenir à la brèche. Un autre passage dans Ézéchiel. Alors en fait, deux passages dans Ézéchiel qui se suivent. Je commence au chapitre 13. Au chapitre 13 de Ézéchiel, je lis à partir du verset 4. Ô peuple d'Israël, tes prophètes ressemblent aux chacals dans les ruines. Vous, prophètes, vous n'êtes pas montés pour colmater les brèches. Vous n'avez pas construit de rempart autour de la communauté d'Israël pour qu'elle puisse résister dans la bataille au jour de l'Éternel. Donc il continue. Ils ont des visions fausses, des oracles trompeurs, ceux qui disent l'Éternel le déclare alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Des faux prophètes qui ne conduisent pas le peuple. Des faux prophètes qui annoncent tout va bien quand tout ne va pas bien, quand la révolte du peuple et sa rébellion le pousse l'amène à la destruction. Et les faux prophètes, eux, ne construisent pas de remparts, ne colmatent pas les brèches créées par le péché, mais les laissent grandes ouvertes. Et on continue donc au chapitre 22 d'Ézéchiel, et là je lis à partir du verset 29. Le peuple du pays commet des actes de violence et des vols. Il exploite les pauvres et les indigents. On opprime l'étranger au mépris de ses droits. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Le péché encore, le péché du peuple qui vit dans la violence, qui opprime le faible, qui opprime l'étranger. Et l'Éternel cherche quelqu'un qui construise des remparts, quelqu'un qui se tienne sur la brèche. Les faux prophètes ne l'ont pas fait, et l'Éternel cherche quelqu'un qui le fasse. Et ce texte nous dit « Je n'ai trouvé personne ». Je n'ai trouvé personne qui se tienne sur la brèche. Et cette fois-ci, on peut de l'autre côté, là encore une fois, c'est comme dans l'histoire de Moïse, de l'autre côté de la brèche, la colère de l'Éternel se trouve. Et cette fois-ci, Dieu cherche quelqu'un qui conduise le peuple, qui conduise le peuple vers le salut, qui le détourne de ses mauvaises voies, qui lui montre quel est son péché. Quelqu'un qui se tienne sur cette même brèche ouverte par le péché, et qui cette fois-ci se tourne vers le peuple et le conduise. Et l'Éternel nous dit, il n'a trouvé personne. Celui qui va accomplir cet appel de Dieu, et encore une fois, c'est le Christ. C'est lui qui va venir pour conduire, c'est lui qui va être le chemin, c'est lui qui va dire le royaume de Dieu s'est approché, c'est lui qui va appeler au salut, lui qui va se tenir encore une fois sur la brèche ouverte par le péché, cette brèche dans la relation entre les hommes et Dieu. Se tenir sur la brèche. Ce que l'Éternel recherche. Un dernier passage où il est encore parlé de brèche. Cette fois-ci dans le prophète Ésaïe. Et je vais lire au chapitre 58. Et là, ça va être un petit peu plus long, je vais lire les 12 premiers versets du chapitre 58 de Ésaïe. Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple, dénonce sa révolte, et aux descendants de Jacob, leur faute. Ils me cherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme le ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste. Et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements
et veulent être auprès de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Mais le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et en querelle, en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de vous étaler sur le sac et la cendre? Vous pouvez appeler cela un jour de jeûne, que l'Éternel agrée. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux qu'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à ceux que l'on voit nus, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera, et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés, tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Tu seras appelé réparateur des brèches.
Ésaïe parle de ce qui va venir. Le contexte de son ministère, c'est la destruction prochaine par Babylone d'Israël et la déportation. Et Ésaïe dénonce le péché du peuple. Il dénonce sa révolte, sa rébellion. Il dénonce sa fausse religion. Ces jeunes qui sont juste des faire semblants. Il dénonce l'injustice et l'égoïsme. Et il parle de ce besoin de restauration. De restauration de la relation à Dieu. Et ce qui est marquant dans ce passage, c'est que quand il est parlé de restauration, c'est pas l'Éternel qui restaure. Celui qui restaure dans ce passage, c'est le juste. C'est le juste, celui qui met en l'Éternel son espérance, celui qui décide d'avoir une relation authentique avec lui, celui qui libère l'esclave et l'opprimé, celui qui partage ce que l'Éternel lui a donné, celui qui fait confiance à Dieu pour voir à ses besoins, et encore une fois, celui qui a accompli pleinement cette parole, celui qui est venu pour libérer, celui qui est venu pour partager, pour nourrir l'affamé, pour abreuver l'assoiffé, bien sûr, c'est encore une fois, c'est le Christ. C'est le Christ, mais le Christ qui nous montre le chemin et qui nous montre comment Dieu veut restaurer et comment il veut le faire à travers nous. Quand je priais pour que le Seigneur restaure restaure les brèches, répare ce qui a été cassé. Bien sûr que le Seigneur a pourvu. C'est lui qui a apporté le pardon dans ma vie. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a donné toutes les ressources pour que je puisse marcher avec lui. Mais celui qui répare les brèches que mon péché a créées, celui qui répare les brèches que le péché de ceux qui m'entourent a créées, le péché de ma femme, de mes enfants, votre péché, tout ce qui a créé des brèches et des séparations, des cassures et des meurtrissures, eh bien, celui qui répare tout cela, c'est moi. C'est à moi que Dieu demande de restaurer et de réparer. C'est moi qu'on doit appeler réparateur des brèches, celui qui restaure, qui répare les demeures qui ont été brisées. Cette restauration, elle passe par et ce passage nous le décrit bien, je trouve. Ça passe d'abord par la vérité dans la relation avec Dieu. Aucun intérêt à mettre en avant une piété qui n'est que façade. Dieu se sert de celui qui est vrai devant lui, celui qui est prêt à ce que sa relation avec lui transforme sa vie se traduise par des actes de vérité. Cette restauration, elle passe aussi par la foi. Ce texte nous parle de celui qui partage son pain, celui qui renonce à la toute-puissance. Quand Ésaïe décrit les hommes qui jeûnent et qui en même temps font des affaires en opprimant ceux qui sont faibles, qui font des affaires en tapant du poing avec méchanceté. C'est comme ça que les affaires se font. Il faut être dur, il faut réclamer son dû, il faut se battre. Si on veut accumuler des richesses, ou bien c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu nous demande de choisir une autre voie. Une voie où ce n'est plus la volonté de gagner qui domine, mais c'est la volonté de donner, la volonté de partager, la volonté de libérer. Ça veut dire que je suis prêt à renoncer à maîtriser ma vie et mon destin, je suis prêt à remettre ça entre les mains de Dieu, je suis prêt à lui faire confiance pour que ce soit lui qui pourvoie à ce dont j'ai besoin, à tous les niveaux. On peut parler bien sûr des richesses, mais on peut aussi évoquer tous nos besoins émotionnels. Et parfois le couple est un ou la famille est un endroit où les luttes pour obtenir ce dont on a besoin ou envie peuvent être violentes. On a besoin parfois de réconfort, on a besoin de d'affection, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de beaucoup de choses. Et la famille est l'endroit où ça se vit le plus intensément. Et là, le prophète nous parle d'une façon de vivre qui consiste à regarder et à ne pas fermer son cœur, à regarder les besoins des autres et à y répondre. à partager son pain, à partager son amour, à partager son hospitalité, son accueil. Et le verset qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il est dit, voilà, donner des habits à celui qu'on voit nu, à ne pas te détourner de ton prochain, à voir les besoins de l'autre, à y répondre, à ne pas se détourner. Ne pas se détourner. C'est quelque chose que je fais très facilement, de me détourner, de ne pas regarder, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable. Mais Dieu nous demande d'ouvrir les yeux et de voir, de ne pas avoir peur de regarder mon prochain, de le regarder avec ses besoins, et de répondre avec ce que le Seigneur nous a donné. La pureté parfaite n'existe pas pour nous aujourd'hui. C'est ce que Jésus nous enseigne quand il lave les pieds de ses disciples. Nous avons besoin, donc c'est une autre façon d'exprimer ce que je disais tout à l'heure, mais nous avons besoin d'être purifiés, nous avons besoin d'être réparés. Je lisais il n'y a pas très longtemps un livre sur la pureté, écrit par un Américain, donc où il expliquait la lutte pour la pureté, pour la sainteté, et comment en fait dans sa famille en fait il faisait la chasse à toutes les tentations, tout ce qui pouvait le tenter. Alors quand il recevait un magazine, sa femme prenait le magazine avant et regardait, et chaque fois qu'il y avait une image qui était une tentation possible, découpée. Je crois pas que ce soit la bonne approche. Dans les avions. Les avions, vous le savez, ça fait partie des modes de transport les plus sûrs. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la sécurité dans les avions. Et à un moment donné, cette recherche de sécurité faisait qu'ils cherchaient à éviter tous les incidents. Il fallait qu'il y a aucun moment, il y a la moindre anicroche qui se passe. Il fallait à tout prix éviter tout ça. Et ils se sont rendus compte que ça n'améliorait pas la sécurité. Supprimer tous les incidents, ça n'améliorait pas la sécurité. Ce qui améliorait la sécurité, c'était d'arriver à ce que quand un problème arrive, on arrive à le réparer avant que ça devienne grave. C'est ça qui améliore la sécurité. C'est d'être capable de réparer, de réagir quand il y a un problème qui arrive. Et je pense que dans nos vies spirituelles, c'est la même chose. On n'arrive pas à éviter tous les péchés. On n'arrive pas à éviter les blessures. On n'arrive pas à éviter les brèches et les séparations. Mais ce qu'on doit arriver à faire, c'est à être là pour réparer les brèches, pour se tenir, pour voir les problèmes, pour se tenir à la brèche quand elle arrive. On doit être là pour réparer, pour colmater les brèches quand elles se forment. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous que Dieu demande de réparer les brèches que notre péché a créées. Il a fait sa part. Et il l'a fait chaque jour. Il intercède pour nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de réparer les brèches. De les réparer avec la vérité, avec la foi, avec une confiance en Dieu qui nous permet de donner, même quand on pense que c'est pas possible. Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche. Par-dessus tout, il cherche des hommes qui aiment. Vous connaissez ce passage de Corinthiens. L'amour est ce que Dieu cherche le plus, celui qui voit son prochain et qui ne se détourne pas. Et son prochain, c'est évidemment, c'est nous ici, c'est celui qu'on peut croiser dans la rue, c'est sa femme, son mari, ses enfants, ceux qui sont devant nous et nous pouvons voir leurs besoins. Je m'arrête là et je prie que le Seigneur fasse de nous des réparateurs de brèches.